Dan Mag, T comme Titane, Dan comme Daniel, le magazine de Titane et Dan. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique,
au micro, et de l'ami fidèle
Laurent,
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Jacques Ancet, vous êtes né à Lyon. Après le bac, vous entreprenez des études d'espagnol. Pendant ces années d'université, vous découvrez la chanson française, vous essayez à la composition musicale, vous découvrez la peinture moderne en suivant les cours du philosophe Henri Maldinet. Vous passez une année en tant que lecteur à l'université de Séville. Vous êtes reçu à l'agrégation d'espagnol et vous vous lancez dans l'enseignement, d'abord à Auxerre, puis à Annecy. Vous publiez en 1972 une monographie sur Luis Cernuda dans la fameuse collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers. En 1975, vous publiez chez un éditeur lyonnais votre première traduction, La destruction ou l'amour, de Vicente et Alexandre, prix Nobel de littérature en 1977. En même temps que ces premiers pas pour nous faire découvrir le monde hispanique, vous écrivez vos premiers poèmes. Apparemment, Bernard Noël et Henri Méchonic ne sont pas étrangers à votre envie d'écrire de la poésie. Vous avez publié plus de 40 recueils, dont certains ont été récompensés, le prix Charles Vildrac et Heredia en 2005 pour Diptyque avec une ombre, et le prix Apollinaire en 2009 pour L'identité obscure. Votre travail de poète est intimement mêlé à celui du traducteur, aux traductions de l'espagnol font autorité. Vous avez participé à la publication d'un volume de La Pléiade consacré à Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Vous avez traduit Borges, Juan Gelman, Ramón Gómez de la Serna, Luis de Góngora, Luis Cernuda et bien d'autres. Avec le cycle Obéissance du vent, vous nous montrez que la prose...
Au vent.
Obéissance au vent, pardon. Vous nous montrez que la prose n'est pas si éloignée qu'on pourrait le croire de la poésie. En vous lisant, on se dit également que la philosophie ne vous est pas étrangère, loin s'en faut. Vous avez collaboré à de nombreuses revues, Sud, Plein Champ, Le Journal des Poètes, Solaire, Europe, NRF, Poésie. En guise de conclusion, avant cet entretien, on pourrait dire que vous poursuivez sans relâche cette interrogation sur la place des mots dans nos vies, sur le rôle de la langue qui forge notre identité en même temps qu'elle ne cesse de nous interroger sur ce que nous sommes nous-mêmes. Bonjour Jacques Ancet.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer cet entretien par la lecture d'un de vos textes, un texte écrit en prose, un texte d'une musicalité étonnante.
De la fenêtre, un homme regarde le monde. C'est toujours comme ça que cela commence. Par cette attente interminable. Un homme assis et qui regarde. Depuis des années, des siècles peut-être. Avant même la fenêtre et le corps immobile, il est comme un pur regardé qui chaque fois s'incarnerait dans la singularité de chaque nouveau regard. Mais en même temps, ce qu'il voit ne l'atteint pas. C'est comme si les aubes et les crépuscules, les saisons lentes ou rapides, la nature, les choses et les hommes glissaient sur la vitre, l'abandonnaient à son immobile solitude. Alors, quittant le fascinant spectacle, ses yeux reviennent à la page où ses mains tracent de temps à autre quelques lignes incertaines. À ce moment, il lui semble percevoir comme un accord soudain, celui de sa fragile durée humaine et de l'instant absolu du monde. Avec, dès que ses yeux se lèvent à nouveau, retrouvant la vision perdue, le sentiment d'un irrémédiable écart, d'une infime blessure, un sentiment d'y être et de n'y être pas. Serait-ce cela la beauté, se demande-t-il. Et écrire, ce désir à chaque fois de réparer l'imperceptible accroc, de recueillir dans un léger tissage de paroles ces figures éparses du devenir et les rendre un instant solidaires, de telle sorte que recouvert, effacé par l'afflux de mots, le monde finirait par venir y renaître, surgissant de ce mouvement même qui d'abord l'a annulé et qui maintenant lui offre cette vivacité dont jusque-là il paraissait privé. Oui, Écrire, ce serait d'abord cela. S'asseoir pour voir se lever le monde dans le jour du langage. Et d'une voix presque muette, d'un souffle engendré par les mots et qui les porte, ne cesser de célébrer cette beauté, répétant comme une prière muette cette phrase si simple de Beckett. Je regarde passer le temps, et c'est si beau.
Merci. Sur une musique de Franz Schubert, un sonate en la,
oui,
qui plus est joué par Alfred Brendel.
Oui, l'andantino de la sonate en la, qui est un morceau poignant, qui est tout Schubert en quelques
mesures.
La simplicité, l'art du chant, de la mélodie, et puis cette profondeur à la fois de l'amour et de la douleur. Il disait, puisque chaque fois que je veux chanter l'amour, il se transforme pour moi en douleur, et inversement, chaque fois que je veux chanter la douleur, elle se transforme pour moi en amour. Et ça, c'est un des morceaux emblématiques de Schubert.
Alors, une œuvre comme la vôtre ne se résume pas à un texte, fût-il des plus forts. Il n'empêche, ces mots de vous contiennent une grande part de votre engagement poétique, non ?
Oui, je pense. C'est un texte écrit il y a très longtemps, mais bon, je m'y reconnais assez.
En réponse à une question sur la langue française, vous rendez hommage à ces auteurs qui transforment la langue en la bousculant. Est-ce que dans votre travail d'accoucheur de mots, ces mots qu'on appelle poésie, vous vous situez dans cette lignée ?
Bon, il me semble que on ne peut pas écrire si on n'a pas éprouvé un jour le sentiment que ce langage dans lequel on est né, qui nous a façonné, qui a façonné notre mode de percevoir, de penser, qui nous permet de nous comprendre, était néanmoins une sorte d'enfermement. C'est-à-dire le sentiment que ces mots, ils nous ont été imposés et que ce n'est pas nous véritablement qui parlons, c'est la langue qui parle à travers nous. Et il y a ce sentiment que peut-être on pourrait arriver à faire entendre autre chose, puisque toute perception passe déjà par la nomination. Quand on voit, on nomme. Je vois cette table, j'ai dit table, micro, etc. Donc, tout passe par la nomination, le monde que nous percevons, notre vision du monde passe par le langage. Alors, si on fait bouger le langage, peut-être qu'on arriverait à faire bouger cette perception, si peu que ce soit, à faire bouger la perception et à faire voir autre chose. Il suffit d'ailleurs de changer de langue pour se rendre compte que c'est la même chose et c'est pas tout à fait la même chose, c'est presque pareil, ça bouge. Enfin, pour les langues latines, si on va en Chine, j'imagine que ça doit bouger beaucoup plus. Donc, changer de langue, c'est comme changer de lunettes. On aurait des lunettes, on y verrait rose avec une paire de lunettes, une autre on verrait jaune. C'est le même monde et en même temps avec une tonalité différente.
C'est une impression que j'ai, que vous auriez plutôt l'envie de vous taire, mais qu'il y a une poussée puissante qui vous fait donner une voix au silence.
C'est-à-dire que écrire, ça met en jeu plusieurs choses. On écrit parce que on a ce sentiment par rapport au langage. Mm-hmm. Et puis aussi, on écrit parce que le monde, les choses, tout ce qui nous entoure est fuyant. On a le sentiment que on n'arrive pas à coïncider. Et peut-être que pour arriver à cette coïncidence, il faudrait arrêter de parler. Arrêter cette radiophonie qui fonctionne constamment jusque dans notre sommeil et donc entrer dans le silence. Et en même temps, c'est impossible. Et ce qui pousse alors, c'est le sentiment qu'il y a une possible coïncidence, mais qu'on n'y arrive pas. C'est jamais ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça, c'est là ce que disent les mystiques. Ils disent toujours, ça n'est pas ça. C'est autre chose. Ils visent le contact avec quelque chose qui les dépasse et ils n'y arrivent jamais. D'où l'entrée dans le silence, qui est un mode de rupture avec le langage quotidien, ce langage qui nous parasite en même temps qu'il nous porte. Et l'entrée dans le silence, et le silence serait l'ouverture à un contact qui, je le répète, est toujours fuyant et n'est jamais complètement réalisé.
Alors, vous parlez du silence, vous dites les mots. Dans vos textes, il y a une forte présence de l'espace, des paysages, des éléments, de la lumière, de la nuit. Comment vous mettez ça en relation?
Je crois qu'un texte, pour moi, commence toujours par quelque chose que je ne sais pas. Il y a comme une voix qui se met à parler, qui chuchote, qui dit quelque chose que je comprends mal ou que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je commence par écouter. J'entends. Et dans ce que j'entends, je vois. Je vois certaines choses qui sont dans cette parole de l'inconnu qui se met à se manifester. Et effectivement, un texte commence comme ça, dans une parole et dans un langage. Mais pour qu'il se continue, qu'il se poursuive, il lui faut quelque chose pour s'ancrer. Et c'est là qu'interviennent les paysages, le décor, tout ce qui entoure au moment où on écrit. Et donc j'écris avec tout ça. C'est une sorte de charbon pour ma machine. Et puis j'écris aussi ces choses parce que je pense qu'il n'y a plus de rapport... Il n'y a plus de séparation entre dedans et dehors à un certain moment, et que dedans et dehors fusionnent, et que finalement parler de l'espace, de la lumière, des paysages, c'est éviter de tomber dans une espèce de nombrilisme où on parlerait de soi, de la personne privée qui, je le signale, disparaît au moment de l'écriture. Si cette personne privée ne disparaît pas, s'il ne se fait pas une sorte de vide et de silence pour que quelque chose puisse apparaître, quelque chose d'autre que soi-même, ça n'a aucun intérêt. Hein, s'il n'y a pas ça, cette espèce d'espace de suspens. C'est comme un espace de méditation, le travail d'écriture.
C'est un peu... À nouveau, une impression que j'ai, que vous regardez le monde, ce que vous venez de dire, et surtout la nature qui gère ce monde à travers un cadre, comme si vous regardiez une photographie qui va de la naissance à la mort, et une photographie qui mettrait une voix sur une image. C'est un peu cela.
Alors, la photo, moi, je pensais plutôt au cadre de la fenêtre. c'est... Mais après tout, une photographie, c'est une fenêtre sur le passé hein, aussi. Donc, un regard, un homme assis qui regarde ce que j'ai lu au début. C'est près d'une fenêtre qui regarde le monde. Le monde dans le cadre de cette fenêtre. Alors bon, il faut d'abord que ce cadre, d'une certaine manière, soit vide. Blanc, pour que quelque chose puisse y apparaître, quelque chose qui n'était pas attendu. Parce que le problème pour un écrivain, c'est moins la page blanche, comme on dit, que la page trop remplie. La page couverte de clichés, d'images, de... on baigne là-dedans. Et il faut commencer par blanchir la page pour que quelque chose puisse commencer.
Vous dites qu'écrire, c'est sortir d'une aliénation. Sur quelle aliénation voulez-vous attirer notre attention ?
Sortir d'une aliénation, je ne sais pas où j'ai dit ça, mais en tout cas, c'est l'aliénation. Ben c'est tout simplement le fait de dépendre d'une langue qui nous façonne, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui fait que nous sommes, d'une certaine manière, déterminés dans nos modes de percevoir, de penser et de communiquer. Et donc, on dépend de ces siècles qui nous précèdent et on d'un certain point de vue, c'est une aliénation. D'un certain point de vue seulement, parce que s'il n'y avait pas de langue, il y aurait le chaos. Enfin, bon.
Alors, être là, ici, maintenant, le temps, l'instant, entre les deux, peut-être, l'être vivant, la poésie là-dedans, quel est son rôle, si elle a un rôle ?
Ben écoutez, d'abord la poésie, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai rencontré que des textes, des poètes, des écrivains, mais la poésie, cette essence, cette belle essence, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, si j'écris, c'est peut-être pour savoir. Et peut-être que ce qu'on appellerait poésie... C'est cette force de langage qui nous met en rapport avec l'inconnu, avec ce qu'on ne sait pas. Et cette force de langage, on peut la retrouver dans toutes sortes de textes qui ne sont pas nécessairement des poèmes, qui ne se bâtissent pas poèmes, qui ne sont pas des textes courts avec des lignes inégales. Et ça peut se retrouver dans des romans, ça peut se trouver dans des pièces de théâtre, ça peut se trouver dans des essais littéraires. Comme ce que j'ai lu tout à l'heure, il y a une tentative pour mêler les différents registres de langage, c'est-à-dire la méditation, le lyrisme. Oui. Donc, effectivement, la poésie, bien... Elle est partout et nulle part. Comme disait Mallarmé, elle est partout. Dès qu'il y a un peu effort sur le rythme ou la tension du langage, il y a poème, sauf aux quatrièmes pages des journaux, disait-il.
Vous dites le poème ne nous guérit de rien, ni de la souffrance, ni de la mort, mais il nous aide à vivre.
Oui, il ne nous guérit pas, ça c'est évident, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, il nous aide à vivre puisque c'est un mode d'habiter le temps dans le langage, d'habiter la vie. Écrire, c'est d'une certaine manière être là, mais être là beaucoup plus intensément que quand on est là en pensant à autre chose et aux problèmes qui nous assaillent tous les jours. Thank you.
FM 97.1 avec notre invité Jacques Ancet. Nous venons d'entendre une suite pour violoncelle de Bach par André Navarra.
Jacques Ancet, vous allez donc nous lire un de vos textes.
Ode au recommencement. Je reviens, j'ai été absent des semaines. Le vent pourtant n'a cessé de souffler et la lumière d'éclairer les visages. Je reviens. Le ciel retombe sur mes yeux avec une lenteur d'enfance. Je ne sais plus si c'est bien moi qui parle ou si de moi ne reste que ce peu de paroles éparpillées que je ne reconnais plus. Mais je reviens, écoutez. Le monde me traverse toujours. Il a des flaques de sang, des mouches, une douleur trop grande pour être dite. Le monde est noir et il fait mal, le monde. Il a de petits yeux méchants, il vous regarde, vous épie. Vous entrez dans une histoire sans queue ni tête, on dit c'est la vie. Elle vous regarde de loin déjà, elle vous mange. Alors comment revenir, comment dire c'est moi, regarde, c'est moi encore, je suis là. Pour la montagne et pour l'herbe, pour le cri de la corneille, le chêne et la clôture. Pour tout ce que j'ignore mais qui réclame un peu de place entre mes mots, un fil luisant entre feuilles et pierres, un peu de terre sous la semelle, ce numéro de téléphone sans visage et sans voix, trop de feuilles sèches pour la saison. Je reviens, mais qui m'a attendu? Les pièces sont vides, quand j'y entre, je ne trouve qu'un peu de poussière au bord des fenêtres et les taches pâles des tableaux absents sur les murs. Le jour est un désert trop encombré de phrases et d'objets. Les vaches broutent dans nos chaussures. Leur souffle chaud fait une buée où nos yeux s'évaporent.
Quand on a une œuvre aussi importante que la vôtre, comment la caractériser? Quel regard vous portez sur votre parcours poétique?
Mais c'est très difficile ce que vous me demandez là.
Mais bien sûr.
Comme disait Henry James, j'ai le nez dans mon tapis. Je ne vois pas l'image que ça produit. J'ai simplement le sentiment de quelque chose qui s'est fait plus ou moins malgré moi, ou à mon corps défendant, ou à mon corps participant, ça dépend, et qui fait que j'ai été amené au point où j'en suis et que tout ce que j'ai fait me pousse maintenant. C'est comme une sorte de boule de neige qui prend du volume, vous voyez.
Voilà, j'aurais peut-être pu poser la question autrement et vous demander, vous entreprenez une écriture, est-ce que ce nouveau travail, vous l'insérez dans une durée ou c'est une autre façon de voir la même chose, ou est-ce que vous poursuivez un autre? Comment est-ce que vous vous situez quand vous reprenez
Moi,
la plume?
J'ai le sentiment de poursuivre, de continuer toujours quelque chose qui prend des formes différentes, mais qui est toujours plus ou moins le même mouvement, même si les textes sont brefs ou longs. Il y a une sorte de continu qui pousse.
On va peut-être aborder cet autre travail qui est également très important pour vous, la traduction. Peut-être vous poser une première question avant que vous fassiez une nouvelle lecture, si vous êtes d'accord. Le mot traduction, est-ce que c'est le bon mot qui dit un simple passage d'un système linguistique à un autre?
Moi, je préfère le mot transcréation, qui est une invention de Haroldo de Campos, un des grands poètes brésiliens du XXe siècle. Transcréation, c'est-à-dire création qui passe d'un domaine à un autre. Traduire, c'est un exercice redoutable qui consiste à tuer le texte de départ et à le ressusciter dans une autre langue. C'est-à-dire que vous avez comment pourrait-on dire ça? Traduire, ça n'est pas une entreprise d'import-export. C'est-à-dire, on ne fait pas passer une marchandise d'une rive du fleuve à une autre sans que cette marchandise subisse une transformation. D'autre part, on ne traduit pas des langues, on traduit des textes dans cette langue. Et le texte dans cette langue est déjà une langue étrangère dans sa propre langue, puisque je disais que le poème, c'était une tentative de faire bouger la langue. Donc, il y a cette langue étrangère et il y a ce corps singulier, cette bouche singulière qui parle et qui est celle de l'auteur. Le problème, c'est qu'une singularité, ça ne peut pas se traduire. La singularité, par définition, elle est une. Alors comment faire sinon la faire disparaître et la ressusciter dans une autre singularité, une autre voix qui, avec sa propre culture, avec ses propres circonstances, pourrait dire, fait entendre comme un écho, presque la même chose. Je dis presque la même chose, c'est Umberto Eco qui dit ça. La traduction, c'est faire presque la même chose, mais jamais la même chose, puisque si vous faites la même chose, vous êtes dans l'eau, vous ne bougez pas de la langue d'origine. Borges disait « La palabra justa, ça n'est pas le mot juste. Ça n'est pas le mot juste, parce que c'est la palabra justa. » Donc forcément, quand on passe de la palabra justa à le mot juste, vous changez de monde, vous changez de système, de vision, d'audition, de perception. Et donc c'est inévitable. Mais si la traduction est réussie, elle est un texte dans sa langue. C'est-à-dire elle devient elle-même une origine, ou elle est une... Où elle est encore une des possibilités ou des virtualités que renferme le texte originel. Elle le réalise. Le texte originel, il est enfermé dans sa langue. Eh bien, les traductions diverses montrent de multiples facettes de ce texte.
Est-ce que cela veut dire également que lorsque vous faites la traduction d'un texte, vous avez plusieurs traductions ? Où vous allez tout de suite à l'essentiel et vous en restez là. Je veux dire, vous faites une traduction en français, et là, vous revoyez le français.
Oui, on commence par traduire bêtement un petit peu, c'est-à-dire on essaye de traduire le sens lexical, etc. Mais tout de suite, vous découvrez que un poème, c'est pas du sens lexical. Le sens, il est de tout le poème, de toute son organisation, de tous ses éléments. Et donc, sans en rester seulement au sens des mots, ben c'est perdre irrémédiablement le texte, d'autant que les mots sont pas les mêmes, en plus. Et donc, traduire, en fait, il faut retrouver dans l'acte de traduire l'élan qu'on éprouve dans l'acte d'écriture, c'est-à-dire qu'il faut être capable de réécrire le texte. Alors, on l'a lu, on a vu à peu près ce qu'il donnait comme ça, de façon un peu mécanique, en traduisant les mots. Et puis là, après, on entre dans un processus de création où, si vous n'êtes pas pris par le mouvement d'écrire, votre traduction, elle reste plate. Il faut que véritablement vous la réécriviez, que vous la passiez par votre bouche pour qu'elle soit audible et qu'elle transmette quelque chose.
Alors, avant peut-être que vous nous parliez d'un auteur qui vous est cher, une phrase là qui est superbe. Écrire est une manière de vivre, dites-vous, traduire une manière d'écrire.
Oui. Écrire une manière de vivre, traduire une manière d'écrire, effectivement, donc une manière de vivre aussi. C'est-à-dire que c'est circulaire. Ouais.
Vous voulez nous parler de Juan
Gelman? Oui, parce que c'est tout simplement un des plus grands poètes d'Amérique latine qui est mort, hélas, l'année dernière, au début 2014. Et c'est le dernier, si vous voulez, important que, poète que j'ai traduit. Donc, c'est de lui qu'on va parler. On aurait pu parler d'autres poètes, naturellement. Et Juan Gelman était un poète que j'admirais énormément et un homme que j'aimais beaucoup. Et cet homme a disparu, sa voix, on ne l'entend plus. Mais on entend encore la voix du poète. On entend encore la voix du poète et j'ai été tellement ému par cette disparition que un texte s'est formé en moi que j'ai appelé une milonga, c'est-à-dire une chanson en souvenir de Juan qui est argentin, très lié à cette culture argentine dont la milonga est un des aspects, puisque la milonga est une chanson populaire, mais aussi une danse qui est à l'origine du tango. Et j'ai écrit cette milonga pour Juan Gelman, et en même temps que je l'écrivais, des mots, des phrases, des vers de Gelman venaient et se mêlaient aux miens. C'est comme si j'écrivais un texte à quatre mains. Et ça a donc été un moment très émouvant, et j'ai appelé ce texte « La lumière et les cendres ». J'en lis un petit extrait. On le cherche, c'est la brume. Il y a un bruit de bouche, comme s'il parlait tout près. Mais non, les corneilles crient. Le ciel est tombé très bas. On entend pourtant un souffle. Quelqu'un est là, qui respire. Avec la lumière, on croit le voir entre les couleurs. On dirait une vapeur errante qui s'évapore très vite, mais il en reste comme une voix dans l'oreille. « Vous, mes compagnons, dit-elle, ouvrez grandes les fenêtres pour que le ciel puisse entrer, le feu des chevaux du monde, mes amis aux bouches pleines d'orangers. Doux compagnons, faites entrer la tourterelle aux ailes pleines de sang. » Faites entrer tous les visages, tous ceux qui sont sans visage. Faites entrer les tortionnaires et leurs faces de crachat. Ouvrez grandes les fenêtres qu'ils crépitent de douleur, que le soleil les consume. Faites entrer mon petit chien, que je pleure dans la rue. Faites entrer les crépuscules de mai, où l'oiseau de l'être oscille face à la nuit. Faites entrer, ouvrez les portes de la vie, ouvrez la vie. Et faites entrer la tendresse, la furie qui poursuit l'âme, la douceur du vif amour, chaque morceau de soleil qui mettait la joie aux yeux, faites entrer sa chaleur et cet enfant trop tôt dans l'ombre. Il est là, oui, sans y être, il est, oui, ce qu'il n'est pas, il est, il n'est pas. Il vient, il va, entre, sort, monte, descend, on le voit tout là-bas qui disparaît, mais... S'il paraît, le voit-on? Soudain, il a un visage. On voit les yeux, les pommettes, la moustache, le sourire. On entre dans la tendresse de sa voix, ses éclats, ses cassures. On l'a dans la sienne. On dit « Où t'es-tu caché ?» Toi, tu dis « J'ai deux sanglots. Le tien, quand tu nais, et l'autre, si tu t'en vas. » Ils sont là, dans ton souffle, toi tu dis, le sanglier des bois m'a piétiné dans cet exil, je suis moi-même une bête. La lumière se retire, on le voit encore un peu, il lève la main, l'agite, il a encore un visage, mais c'est une tache noire, seule sa voix reste nette, mourant, démourant, dit-elle. Quel autre travail as-tu, amour, dit-elle aussi, sauf... Celui d'aimer, vers le sud, luit un feu jaune, des gouttes coulent sur la vitre comme des larmes où les oiseaux viennent et boivent. On l'entend encore. Brûles-tu contre la mort, on l'entend toujours, es-tu maintenant même en repos, le ciel tombe comme un drap qui le couvre sous les yeux. On cherche entre les images, minuscule, une brindille.
Jacques Ancel, on sent à vous écouter que cet auteur a beaucoup d'importance pour vous.
Oui, mais je suis très ému quand je lis ce texte, parce que ce texte est écrit avec la vie de Juan Gelman, avec sa poésie qui sont mêlées étroitement. Il faut le dire, même si souvent on ne parle que de ça. Gelman a connu une tragédie dans sa vie. Et il était journaliste, écrivain, militant révolutionnaire dans les années 70. Et il a quitté l'Argentine en 75 pour venir en Europe pour chercher des soutiens. Et début 76, il s'est installé en Argentine, la pire des dictatures qu'ait connue l'Amérique latine, pourtant fertile en atrocités. La dictature des généraux de 76 à 82. Et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est débarquer chez lui. Et comme il n'était pas là, ils ont emmené sa fille, sa belle-fille enceinte, son fils. Et la fille en a réchappé par miracle, mais le fils a disparu, la belle-fille enceinte, et l'enfant a été placé dans une famille de militaires, comme ça se faisait souvent. Entre parenthèses, il a mis 23 ans pour la retrouver, c'était une petite fille. Et là, bien pour Gelman, ça a été le début de la descente aux enfers. Et il n'a jamais autant écrit d'ailleurs qu'à ce moment-là. Et il a donc erré entre l'Espagne, la France, l'Italie, enfin en exil. Et bien, il y a tout ça dans les poèmes de Vers le Sud que j'ai traduit. J'ai traduit les poèmes de l'exil, enfin un certain nombre, parce qu'il y en a énormément. On se dit comment faire pour écrire autant dans ces conditions-là. Puis comment ne pas écrire pour essayer de tenir. Valente, un des grands poètes espagnols que j'ai traduit aussi, qui m'a fait connaître Gelman, lui a demandé un jour, mais comment peux-tu survivre à ça? Il lui a dit, mais je ne survis pas. C'est, voilà le drame. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que souvent, on met en avant cette tragédie de la vie de Juan Gelman comme si ça cautionnait la grandeur de sa poésie. Mais tout, il y a une quantité de gens qui ont vécu ça. Ils n'ont pas tous écrit une poésie. Je dirais que c'est sa poésie qui a transfiguré cette expérience de désespoir en une expérience de beauté et de vie. Parce que ce qui caractérise sa poésie, c'est la tendresse. Une grande tendresse, alors qu'on attendrait des imprécations, des hurlements, des invectives. Non, c'est la tendresse. Et c'est cette tendresse que je pense est passée aussi dans les textes que j'ai... dans ce texte que j'ai écrit avec lui.
Parce que pour vous, la tendresse est très important également, bien
oui,
sûr.
Bien sûr. Bien sûr. Et là, on pourrait peut-être... écouter un tango, puisque c'est la culture de Juan Gelman aussi.
97.1 avec notre invité Jacques Ancet. Nous venons d'entendre, Jacques,
La Yumba, un morceau de Osvaldo Pugliese, qui est un des plus grands compositeurs de tango des années 40-50. Il a vécu longtemps, il est mort en 94, je crois. Et il est le lien entre le tango des origines et le tango plus moderne.
Alors maintenant, vous nous proposez la lecture de deux textes de Juan Gelman.
Oui, j'en lis un en rapport avec la disparition de son fils, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Notes, tout simplement, et qui a été écrit en Espagne, à Paris, à Rome, je vois, en 1979. Note 14. Es-tu vivant? Es-tu mort, mon fils? Vis-tu, meurs-tu à nouveau, un autre jour, comme tu mourus vécu ces années-là, dans un camp de concentration? Qu'ont-ils fait de toi, mon fils, douce chaleur qui parfois enfonçonnait le monde, père de ma tendresse, mon fils, qui n'en a pas fini de vivre, n'en a pas fini de mourir? Je demande s'il en a fini de mourir, le naquit, le mourut, à chaque instant, enfant qui trop tôt est entré dans l'ombre, voix qu'ils ont mutilée, œil qui a vu, enfançon de ma soif arrachée à ses morceaux, à sa soif, les soifs qui lui abritaient le cœur, elle le lui éclairait mêmement toute la nuit en martelant ma porte. Et puis je vais faire entendre un autre ton de Juan Gelman à de multiples tons. Et là, c'est l'humour. L'humour qui est aussi la politesse du désespoir. Sur la poésie, il y aurait deux choses à dire. Que personne ne la lit beaucoup. Que ce personne, c'est très peu de gens. Que tout le monde ne pense qu'au problème de la crise mondiale et au problème de manger tous les jours. Il s'agit d'un sujet important. Je me rappelle, quand l'oncle Juan est mort de faim, il disait que manger, il ne s'en souvenait même pas et qu'il n'y avait pas de problème. Mais le problème vint plus tard. Il n'y avait pas d'argent pour le cercueil, et quand finalement le camion municipal passa pour l'emporter, l'oncle Juan ressemblait à un petit oiseau. Ceux de la municipalité le regardèrent avec mépris et dédain. Ils murmuraient qu'on leur casse toujours les pieds, qu'ils étaient des hommes et qu'ils enterraient des hommes et non des oisillons comme l'oncle Juan, spécialement parce que l'oncle s'était mis à chanter cui-cui tout le long du voyage au crématorium municipal, ce qui leur avait semblé un manque de respect dont ils étaient très offensés. Et quand ils lui donnaient une tape pour qu'il ferme sa boîte, le cui-cui volait dans la cabine du camion et ils sentaient que ça leur faisait cui-cui dans la tête. Oncle Juan était comme ça, il aimait chanter, il ne voyait pas pourquoi la mort était une raison pour ne pas chanter. Il entra dans le four en chantant cui-cui, on sortit ses cendres, elles piaillèrent un moment et les compagnons municipaux regardèrent leurs chaussures grises de honte. Mais pour en revenir à la poésie, les poètes aujourd'hui vont assez mal. Personne ne les lit beaucoup, ce personne, c'est très peu de gens. Le métier a perdu son prestige. Pour un poète, c'est tous les jours plus difficile d'obtenir l'amour d'une fille, d'être candidat à la présidence, d'avoir la confiance d'un épicier, d'avoir un guerrier de qui chanter les exploits, un roi pour lui payer 3 pièces d'or le verre. Et personne ne sait si ça se passe comme ça, parce qu'il n'y a plus de filles, d'épiciers, de guerriers, de rois, ou simplement de poètes, ou les deux choses à la fois, et il est inutile de se casser la tête à penser aux problèmes. Ce qui est bon, c'est de savoir qu'on peut chanter cui-cui dans les plus étranges circonstances, l'oncle Juan après sa mort, moi à présent, pour que tu m'aimes.
C'est vraiment beau.
Merci.
Merci.
Dans la liste de vos traductions, je vois Ramon Gomez de la Serna. L'impression d'un personnage un petit peu encombrant, important, en tout cas inclassable. Il avait inventé un genre littéraire.
La greguerie.
Alors ?
Métaphore plus humour, disait-on. Métaphore plus humour. Par exemple, le baiser est souvent un chewing-gum partagé. Voilà, une greguerie, il en a écrit des milliers comme ça. Hein.
Mais là, ma rencontre avec Ramon, ça a été une commande. Justement, je traduis très peu sur commande. Mais là, c'était un cas très particulier. L'éditeur André Dimanche est venu me voir avec un livre qui s'appelait « Le livre muet » et qui avait été écrit par Ramon en 1910, alors qu'il avait 21 ans, et qu'il a écrit ça à Paris, et qu'il a... On l'a traité de fou, d'ailleurs. Tous les paragraphes commencent par Ramon, puis c'est des longues proses continues, Ramon. Et alors, on l'a traité de fou, il a remballé son manuscrit, il n'est reparu qu'en 87, bien après sa mort, et il a écrit beaucoup d'autres choses. C'est une nébuleuse, Ramon Gomez de la Serna. C'est, bon. Et là, quand on m'a proposé de traduire ça, j'ai lu quelques pages, et je me suis aperçu que j'avais trouvé mon grand-père, parce que j'ai pratiqué pendant les années 70 des longues proses rythmiques, comme justement les quatre livres qui s'appellent « Obéissance au vent », « L'incessant »,« La mémoire des visages », »,« Le silence des chiens » et « La tendresse », et qui sont des proses rythmiques. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression de trouver, de rencontrer mon grand-père, je peux dire. Et donc, j'ai dit, ben, je le traduis, sans même l'avoir lu, j'ai dit, je traduis ça. Donc là, il y a, comment dire, un passage entre l'écriture et la traduction qui s'est fait dans ce sens. C'est-à-dire, j'ai traduit parce que j'avais écrit. D'autres fois, c'est l'inverse. Je me suis demandé souvent pourquoi, à partir de la fin du millénaire, voyons, c'est-à-dire les années 90, la fin des années 90, je m'étais mis à écrire des poèmes en vers comptés impairs. J'ai exploré à peu près toutes les possibilités du vers impair, parce qu'il est un peu boiteux, un peu déséquilibré, etc. Mais pourquoi j'étais passé là, je ne savais pas. Et puis je me suis dit que j'ai traduit Jean de la Croix, qui est donc le grand mystique espagnol, qui écrit une strophe qu'on appelle la lyra, qui est composée de d'heptasyllabes et d'indécasyllabes, c'est-à-dire vers de 7, vers de 11 en espagnol. Et je me suis dit que peut-être alors que je les ai traduits en vers comptés, mais pair, en français c'est 6-10, en espagnol c'est 7-11, mais parce qu'il y a l'accent qui tombe sur la sixième et la dixième. Mais je me suis dit que la traduction de ces vers impairs espagnols avait dû avoir une influence sur mon travail d'écriture. Donc vous voyez, ça passe dans les deux sens.
Est-ce que quand on se trouve devant un ouvrage à traduire qui a été écrit par quelqu'un dont je vais écorcher le nom, malheureusement, Borges,
est-ce qu'on Borges.
Pas... Merci. Est-ce qu'on n'est pas écrasé...
Hellman. Borges.
Borges. Est-ce qu'on n'est pas écrasé par l'importance du bonhomme, quand même? C'est pas rien.
Borges, bon, alors là, c'était autre chose. On m'avait demandé... C'était aussi une commande. On m'a demandé chez Gallimard... Il y avait un problème chez Gallimard, c'est que la réédition de la Pléiade avait été interdite par la veuve, parce que le maître d'œuvre de la Pléiade disait détenir des entretiens qu'il avait faits avec Borges et qu'elle n'acceptait pas que ces entretiens ne soient pas passés par elle. Vous savez, les veuves, c'est terrible. Bon, et donc, elle avait suspendu l'édition de la Pléiade. Puis, alors, chez Gallimard, on m'a demandé si j'aimerais pas faire une retraduire les poèmes de Borges, parce qu'ils sont, magnifiquement traduits et très mal traduits. Je dis magnifiquement parce que c'est un tour de force virtuose. Borges écrit en forme fixe avec rime et tout. Et son ami Ibarra, qui était bilingue, l'avait traduit en français. Mais quand on les lit, ces poèmes, on a l'impression de lire un auteur du grand siècle, 17e, vous savez, avec un alexandrin ronflant et des rimes riches. Or, Borges, c'est tout, sauf ça. S'il n'est pas gravé dans le marbre, il est comme un doigt qui écrit sur le sable. C'est très... Et c'est très fuyant, et en même temps, c'est très... Comment dire? Il y a une certaine douceur aussi chez Borges, vous voyez. Et là, Ben, j'ai dit non, moi je ne retraduis pas tout parce que tout ne m'intéresse pas chez Borges comme chez n'importe qui, mais je fais une anthologie et j'ai traduit les poèmes en forme fixe et j'ai traduit en décasyllabes. Décasyllabes avec rimes aussi ou assonances, quand les rimes riches vous obligeaient à trop de contorsions, parce que Ibarra, lui, avait pratiquement arrangé Borges. Il rajoute des vers de son cru. Cette traduction, elle n'est pas acceptable. Enfin, pour moi, du coup, j'ai retraduit. Et c'était une commande, mais pourquoi pas, ce cas-là.
Est-ce que, une commande... vous avez la commande et puis le choix des traductions à faire,
des poèmes. Oui, oui.
Et comment se fait ce choix? Bon, vous avez expliqué, parce qu'il y avait votre grand-père, vous l'avez retrouvé quelque part. Est-ce que vous avez chaque fois...
C'est un... pour Ramon, c'était, oui. C'est pas mon grand-père que j'ai retrouvé,
c'est lui
qui était comme mon grand-père.
Voilà, oui, disons, vous avez à travers,
oui.
ça vous a fait rappeler.
Mais avec Borges, j'ai choisi les textes qui me touchaient le plus, et puis j'ai même choisi le titre. J'ai le titre qui est tiré d'une formule magnifique d'une de ses préfaces où il dit... tout poème a deux devoirs, transmettre un fait précis et nous atteindre physiquement comme la proximité de la mer. Et j'ai appelé ça la proximité de la mer. Donc c'est pas un titre de Borges. Maintenant il le présente comme un titre de Borges. C'est à la fois c'est moi qui ai mis le titre, qui ai choisi le titre, mais enfin c'est une phrase de Borges.
C'est difficile de trouver les titres.
Oui.
Même pour vous-même, là, vous venez, vous avez lu tout à l'heure Aude au recommencement, et puis tout ce que vous avez écrit, à chaque fois, c'est un souci, le titre?
Ça peut être un souci, ou au contraire, ça peut être quelque chose que vous avez d'abord. Par exemple, Le silence des chiens, j'avais d'abord cette phrase, et j'ai écrit tout le livre pour savoir ce qu'il y avait dans cette phrase. Voilà. Tandis que d'autres fois, on cherche les titres. Par exemple, pour La mémoire des visages, j'ai mis au moins 6 mois à trouver le titre parce que je voulais un titre où il était soit question du temps, qu'il soit question de visage. Et puis un jour, en rencontrant un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, que j'ai reconnu, j'ai dit « Ah, j'ai La mémoire des visages quand même ». J'ai dit voilà le titre de mon bouquin.
Mais ils sont beaux vos titres,
oui,
les travaux de l'infime. C'est magnifique, ça me fait penser au Je ne sais quoi et presque rien de Jean Kelevy. C'est superbe.
Écoutez, moi je pense
très musical.
Que le titre c'est très important.
Oui, mais on le sent chez vous.
Même des auteurs que j'admire beaucoup, parfois leur titre me laisse un petit peu sur ma faim. Le titre, si vous ratez le titre, vous ratez déjà quelque chose.
On peut continuer avec la traduction. On sait que Velázquez a une exposition qui envahit le Grand Palais, comme ils disent ici. Et là, vous avez eu une commande également.
Alors, j'ai eu une commande pour le grand poème du grand philosophe espagnol Miguel de Unamuno, ouais, mais qui est finalement un des plus grands poètes du XXe siècle. Et qui a écrit un poème de 2558 indécasyllabes qui s'appelle Le Christ de Velázquez, qui est une méditation sur le tableau de Velázquez, et puis c'est une méditation sur l'hispanité, sur la mort. Enfin, c'est un texte magnifique, et on m'a demandé d'en traduire la troisième partie pour un éditeur qui met en regard écrivain et peintre. Et donc j'ai traduit la troisième partie de ce magnifique poème. Je l'ai traduit en décasyllabes aussi, puisqu'il fallait garder ce rythme dont Unamuno dit qu'il est fondamental pour son poème.
C'est un texte qui n'existait pas jusque-là en français?
Si, il existe. Il y a une traduction complète qui a été faite par Jacques Munier, le fils de Roger Munier, qui est le grand écrivain que vous connaissez. Mais elle m'a toujours laissé sur ma faim parce qu'il n'a pas été... Il n'a pas traduit jusqu'au bout la métrique. Il a traduit en vers plus ou moins longs, comme ça l'arrange, ça dépend des moments. C'est honorablement traduit, mais il manque quelque chose. Et donc, à mon avis, il faut retraduire.
Merci, Jacques Ancet.
Merci à vous.
Merci, Titane.
Merci, Dominique.
Merci, Laurent.
Merci, Jacques Ancet. Un grand, grand merci. Merci, Laurent. Et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.